Au téléphone sonne ce soir donc un engouement qui ne se dément pas, celui pour les jeux vidéo à l'occasion du Gamescom qui s'est ouvert à Cologne en Allemagne. C'est l'un des grands rassemblements mondiaux d'éditeurs de jeux vidéo et de gamers, de joueurs en français si vous préférez. Le jeu vidéo donc un marché mondial qui innove en permanence. Quel est son avenir? Quelle est sa définition? Est-ce vraiment un sport? Qui joue d'ailleurs aux jeux vidéo? À quoi ressembleront les jeux vidéo du futur? Question aussi, on n'évitera pas les risques d'addiction. Où se situe l'excellence française? Eh bien voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser ce soir. Voilà donc l'actualité et l'avenir des jeux vidéo. On a les manettes à la main jusqu'à 20h. Vos questions comme chaque soir, c'est au 01 45 24 7000 ou bien sûr l'appli France Inter.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Avec un premier témoignage, un témoignage par mail, celui d'un retraité. Tiens donc, je suis retraité, dit Henri. Il y a quelques années, mes enfants m'ont fait découvrir le jeu vidéo. Au passage, c'est Dr. Kawashima sur Nintendo DS, ça parlera aux spécialistes et aux amateurs. Et c'est tout un univers, dit-il, qui s'est ouvert à moi et que j'adore. Alors pour répondre à vos questions ce soir et vos témoignages, trois invités. Vanessa Lalo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans le jeu vidéo. En studio également, Philippe Rodier, bonsoir. Vous êtes journaliste e-sport au Cahier du Foot et vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Le phénomène e-sport raconté par les gamers. Quand je dis que vous êtes journaliste e-sport au Cahier du Foot, vous levez les yeux, c'est pas ça?
Ouais, je suis journaliste indépendant et j'écris sur le football.
Attendez, on va vous mettre le micro, ça va beaucoup mieux marcher comme ça.
On m'entend?
Non, on vous entend pas. Bon, écoutez, je vais présenter à vos côtés Thomas Hercouet.
Hercouet, absolument.
Rédacteur à Topi. Alors moi, je n'ai plus de micro tout d'un coup.
Bon. Alors c'est community manager, techniquement. Je n'écris pas d'articles, je les partage et je réponds aux messages.
Community manager, je le note. Écoutez, voilà. À Topito, donc Topito, c'est ce site d'info-divertissement qui s'est fait connaître par ses classements en tout genre. Le top 5, les top 10 et autres top 15 de tout. Et j'ose dire un peu n'importe quoi parfois, pour rire. Et surtout pourquoi pas.
Surtout ça.
Alors donc, on a entendu le témoignage de ce retraité joueur. Les deux tiers des Français disent jouer aux jeux vidéo. C'est une enquête de l'IFOP de l'an dernier. Thomas Hercouet, ça fait pas mal de monde tout de même. Et est-ce qu'on connaît assez précisément le profil du joueur de jeux vidéo en France?
Il y a un cliché qui est assez tenace qui dit que le gamer, par essence, est un adolescent, un jeune homme. Allez, on va pousser jusqu'à 30, 35 ans. De lycéens, de collégiens à jeunes actifs, essentiellement un homme, essentiellement blanc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des statistiques qu'il faut vraiment relativiser. Alors, j'ai pas révisé mes données INSEE, mais je sais qu'aujourd'hui, tout le monde joue. Vous cherchez des profils. Ma grand-mère joue à des jeux vidéo aujourd'hui. Il y a des retraités qui jouent à des jeux vidéo. Le jeu vidéo se décline dans tellement de formes qu'il s'adresse aujourd'hui à tout le monde.
Alors, aujourd'hui, on joue évidemment sur console, mais on joue aussi sur son smartphone. Est-ce que là aussi, avec le smartphone, ça permet de différencier les différents types de joueurs? Je vais poser la question à Vanessa Lalo. Je rappelle que vous êtes psychologue et clinicienne.
Alors le jeu vidéo a été largement démocratisé par le smartphone et tous les appareils mobiles. Donc ça nous a permis d'avoir un panel de joueurs extrêmement large et diversifié, avec notamment l'apparition des femmes comme joueuses, puisqu'elles sont aujourd'hui 48%, enfin les joueurs comprennent aujourd'hui 48% de femmes. Et de plus en plus de personnes âgées, entre guillemets, jouent aux jeux vidéo grâce à ces équipements mobiles.
En France, j'ai quelques chiffres moi de cette enquête IFOP de l'an dernier. 90% des joueurs sont tout de même âgés entre 18 et 24 ans, donc ils sont quand même majoritairement tout de même assez jeunes. Est-ce qu'on joue au même jeu selon l'âge et selon le sexe, Philippe Rodier?
Non, je pense pas. Je pense que, par exemple, un jeu comme Counter-Strike, un FPS, c'est par définition un jeu de tir.
On va essayer de faire comprendre la zone des auditeurs quand c'est un peu technique, parce qu'on n'a pas des spécialistes.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Un FPS, ça sera un jeu de tir. Ça sera un jeu qui, vous êtes une sorte de soldat, entre guillemets. Ça s'orientera plus vers les garçons, même s'il y a pas mal de filles qui jouent de plus en plus. Moi, j'ai joué à une époque où il n'y en avait vraiment pas beaucoup, et j'ai l'impression qu'il y a un engouement qui est plus prononcé de la part des filles sur ce type de jeu. Après, je pense que des jeux comme Fortnite, par exemple, vont attirer plus les enfants.
Alors, Fortnite, il faut expliquer. Hein. C'est aussi un jeu, c'est le phénomène du moment. C'est aussi un jeu de combat et de stratégie, enfin de combat avec
combat,
des armes.
Combat, j'irais pas juste. Enfin, ça peut être appelé comme un jeu de combat. Après, quand on le regarde, on a plutôt l'impression que c'est une sorte de divertissement plus que du combat. Je trouve que le terme est un peu fort. Peut-être que sur Counter-Strike, il sera plus adapté parce qu'on est sur un modèle qui reproduit la guerre, même si ça ne veut pas dire qu'on va devenir violent en y jouant. Mais non, je pense qu'il y a des catégories d'âge qui vont se tourner plus vers les jeux comme Fortnite, League of Legends, et puis les personnes, après, il ne faut pas oublier qu'il y a des jeux solo aussi, ou des jeux, des personnes de 30 à 40 ans, voire plus, vont prendre du plaisir à jouer à une aventure, plus qu'à un jeu collectif aussi.
Thomas Hercouet, quels sont le top 5 des jeux qui marchent bien aujourd'hui en France?
Le top 5 des jeux qui marchent bien? vous savez, c'est une liste qui tourne énormément, mais je pense qu'on peut... Fortnite, évidemment, est dans la partie. Il y a beaucoup de FPS, je pense à la série Call of Duty,
FPS, notamment. C'est des jeux de combat
jeux de tir,
avec
voilà.
des tirs. Hein,
exactement.
Ouais.
On est à la première personne, on incarne un soldat dans des situations de guerre. Faut pas oublier tous les jeux Nintendo. Je pense à Mario Kart, par exemple, qui est un des jeux les plus familiaux qui existent, qui marche le mieux.
Mario Kart 8 Deluxe, je vois ça.
Exactement. Et c'est un jeu de course très familial qui se joue à plusieurs. Et puis on a tous les jeux Nintendo. Le dernier en date qui est sorti, c'est Mario Maker, donc qui met en scène le plombier. On peut créer ces niveaux. C'est des jeux qui sont très très populaires. Et puis Candy Crush, les jeux sur mobile, évidemment.
Allez, 01 45 24 7000. On va au standard avec un premier appel, celui de Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Vous nous appelez des Hautes-Alpes. Ouais. Quel est votre témoignage ou votre question?
Alors moi, ma question, c'est étant donné qu'il y a un engouement pour tous ces jeux, est-ce qu'en France, on a prévu des métiers... Enfin, disons que moi, j'ai un fils de 15 ans. Je voudrais savoir s'il va y avoir des débouchés, s'il peut s'orienter après pour aller dans des métiers qui perdurent quoi, dans le jeu vidéo.
On va poser la question à l'un de nos invités. Pour commencer, Philippe Rodier, est-ce qu'il y a des débouchés pour les jeunes dans les métiers du jeu vidéo?
Je suis impressionné que c'est une excellente question et je pense que c'est la plus importante du moment parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enfants, je vais appeler ça un peu vulgairement des gamins, qui arrivent et qui disent à leurs parents « voilà, moi je voudrais être joueur professionnel dans l'e-sport ». Il faut pas s'enflammer parce qu'on parle beaucoup des audiences qui augmentent, on voit beaucoup de sommes d'argent qui se trimballent un peu partout, mais dans les faits, aujourd'hui, il n'y a pas de centre de formation pour devenir joueur professionnel. Déjà, il n'y a pas beaucoup de clubs aussi en France qui sont capables de salarier des joueurs. Il y a une économie qui a un modèle économique qui est en train d'être trouvé en ce moment par des équipes. On peut respecter des équipes comme Vitality ou Gamers Origin qui arrivent à traduire un modèle économique qui est viable et stable, je pense. Mais il n'y en a pas tant que ça. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a France eSport qui fait un très gros travail au niveau de la démocratisation de la discipline.
Là.
Démocratisation de la discipline.
Non, mais comment vous appelez l'organisme?
France eSport.
France eSport.
Ouais, qui est en gros la fédération, on peut dire, de l'eSport en France.
D'accord.
Et, qui fait un gros travail pour ça et puis justement aller vers les instituts, comme le Pôle emploi, on va dire très simplement, pour justement faire des fiches de métiers, et puis qu'on puisse donner aux gens et au public les différents métiers dans l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, dire à un gamin, tu joues, t'es fort, tu vas être un joueur professionnel, c'est juste lui vendre du rêve pour pas grand-chose, et il faut faire très très attention à ça. Et heureusement, en France, on a une fédération qui s'en charge plutôt pas mal, et puis des gens comme Vanessa, qui depuis des années passe ce message-là aussi en France.
Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, est-ce qu'on sait d'ailleurs où se situe l'excellence française dans le jeu vidéo, Vanessa Lalo?
Alors en France, on a de très bons créateurs de jeux, notamment indépendants. On a aussi un organisme, enfin une entreprise énorme qui s'appelle Ubisoft, qui quand même génère des millions et des millions de chiffres d'affaires. Donc on peut dire qu'on a quand même de très bons créateurs de jeux vidéo en France. Et en termes d'orientation, au-delà du sport électronique qui a un certain nombre de métiers d'avenir, on peut citer aussi tous les graphistes, les game designers, donc ceux qui créent, qui font la création des mécaniques de jeu, les scénaristes, les personnes qui font le son, la musique. On a de plus en plus d'orchestres philharmoniques autour des musiques de jeux vidéo. Donc on voit que c'est des métiers qui sont très complets et qui finalement peuvent déboucher énormément de diversification, qui sont pas forcément que de la création de jeux très... fermé, on va dire, mais que ça ouvre à énormément de panels de métiers, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, qui sont les nouvelles plateformes aussi de diffusion de jeux vidéo. Donc, on peut s'orienter vers plein de choses.
Une excellence française. On dit d'ailleurs qu'il y a une fuite des talents français du jeu vidéo. Qui peut répondre à ça? Ils sont débauchés par qui? Ils vont où? Je vous pose la question, peut-être Philippe Rodier.
Voilà. Moi, ce que je voudrais noter, parce que c'est très intéressant ce que Vanessa a dit, c'est qu'effectivement, il y a d'autres métiers que joueurs professionnels. Et puis, quand on parle de l'excellence française, moi, je me permets de citer juste un jeu, parce qu'on n'en a pas trop parlé en France. Il s'appelle A Plague Tale, qui est un jeu qui est exceptionnel, qui a été noté dans les 17-18 sur 20. Et malheureusement, il n'a pas la puissance marketing d'un Call of Duty ou d'un AAA classique. Et pourtant, c'est peut-être, pour moi, un des top 10 des jeux de l'année, pardon.
Mais en fonction de quoi vous dites que c'est un très bon jeu vidéo?
En fonction de l'histoire, en fonction des scénarios.
La narration.
Quand vous parlez de l'excellence française, juste pour un aparté sur l'e-sport, qui ont une différence.
On va en parler dans un deuxième temps de l'e-sport.
Mais... D'accord. Sur les jeux vidéo, l'excellence française, je pense qu'elle se matérialise très clairement dans la façon de raconter une histoire. Ça, c'est l'histoire de notre pays. C'est qu'on a une certaine sensibilité qui est différente par rapport aux États-Unis, par exemple. Plactel, c'est un jeu qui est très bien raconté, où tu vas être pris par l'histoire plus que par les graphismes, mais peut-être. Et ça, pour moi, c'est une particularité de la France. C'est-à-dire qu'on a une façon de raconter les histoires qui est un peu différente.
01 45 24 7000, on retourne au standard avec une question de Vincent. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Rennes.
Oui, c'est bien ça. Et donc moi, j'avais appelé tout à l'heure, justement, quand il y avait eu la présentation de la thématique, où il y avait donc encore le sujet de l'addiction qui a été indiqué.
On va l'aborder tout de même, c'est pas un sujet tabou.
C'est pas un sujet tabou, mais c'est vrai que ça me titille un petit peu, en sachant que justement, ce qu'ont dit vos deux intervenants auparavant, on est quand même devant, devant de la création pure, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau graphisme, que ce soit au niveau histoire. Et moi, je vous conseille vraiment d'essayer les jeux, et comme ça vous comprendrez par exemple des jeux comme Inside, où là récemment j'ai découvert Dark, qui vient juste de sortir, qui est un petit jeu qui est vraiment magnifique au niveau graphisme, au niveau histoire. Et j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas dans les jeux vidéo, qui ont laissé tomber, et leur faire passer une soirée comme si on regardait vraiment un très bon film, un film d'auteur, et on est complètement dedans, absorbé, et on n'est pas obligé de tirer sur qui que ce soit ou absolument marquer 10 buts à 0. Oui. On peut vraiment passer du bon moment, et il y a tout ce qu'il y a derrière, tout le processus de création qui est vraiment comme pour le cinéma en fait, c'est un petit peu le lien qu'on fait à chaque fois, dans le sens où on tombe sur des bandes originales absolument magnifiques, sur des créateurs, que ce soit au niveau graphisme ou même des scénaristes, des écrivains qui sont derrière les jeux vidéo, un petit peu comme Plectel, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, l'addiction, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est si vous faites un sujet sur les instituts, la pharmacologie ou vous n'avez pas forcément parlé d'addiction aux médicaments, et donc là, je pense que ça serait vraiment bien de profiter de parler de tout ce que peut apporter le jeu vidéo en lui-même. Même s'il y a des mauvais côtés, comme justement les cas de harcèlement qu'on a eu depuis plusieurs années, ou les studios qui ferment juste pour faire des profits et qui virent des centaines de personnes.
Eh bien, vous avez eu longuement l'occasion de le dire. Et merci de ce témoignage, Vincent, donc, qui nous appelait de Rennes. Vanessa Lalo, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. La violence et l'addiction plutôt pour commencer des jeux, pour les jeux vidéo, c'est un non-sujet, comme le laisse entendre cet auditeur?
Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit que c'était un non-sujet. Là, récemment, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a reconnu le trouble du jeu vidéo comme existant. Donc, ça devient compliqué de faire complètement machine arrière, de dire complètement que ça n'existe pas. Moi, je préfère parler de pratique excessive, parce que je trouve que ça nous permet de remettre un peu plus la balle au centre et de parler de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont effectivement compulsifs, excessifs. Après, est-ce que ça a les mêmes ressorts que l'addiction comportementale mentale que l'on pourrait trouver dans le sexe, le sport, les jeux d'argent? Peut-être pas forcément, les études sont en cours, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, on n'a pas de consensus, mais en tout cas le consensus sur lequel on arrive à tomber vraiment d'accord, c'est pratiques excessives qui nous permet de sortir du débat et de parler avec des personnes qui sont un peu en excès sans forcément les braquer et de pouvoir avoir un mode de communication et un dialogue possible.
Vous préférez parler de jeux excessifs, de comportements excessifs, de durée excessive plutôt que de gaming disorder, ce trouble dont parle l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. À partir de combien d'heures de jeu est-ce que ça devient trop et avec quels symptômes?
Alors, il n'y a pas de nombre d'heures maximum qui ferait qu'on tomberait de l'autre côté, parce qu'on ne sait pas, comme avec des molécules ou comme avec un nombre de verres d'alcool, par exemple, on ne peut pas mesurer les choses de la même manière. C'est plus la question du surinvestissement. Quand on désinvestit l'école, la vie familiale, la vie scolaire, la vie affective, on peut effectivement à un moment considérer qu'il y a un trouble, parce qu'il y a un surinvestissement du jeu au détriment d'autres choses. Et à partir de là, on va pouvoir poser éventuellement un diagnostic, mais en général, on pose pas ce type de diagnostic. On va plutôt essayer de comprendre quelles sont les causes, pourquoi la personne est en excès. Et moi, dans mes consultations, la plupart des personnes qui sont en excès sont soit dépressives, soit avec des troubles psychiatriques latents, soit des enfants précoces, soit des phobiques sociaux qui ont peur d'être en contact avec les autres ou qui refusent le contact avec l'école. Et en général, on peut poser un autre type de diagnostic qui est souvent plus intéressant pour une prise en charge que de parler simplement d'addiction ou d'excès.
Philippe Rodier.
Ouais, je trouve une excellente réponse parce que je ne sais pas si c'est un non-sujet. En tout cas, je pense que ce qui est très compliqué en France, c'est que dès qu'on touche à un phénomène de masse qui est nouveau, on a souvent des craintes et des peurs. Et ça, c'est très français, malheureusement. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder. Et vous avez très bien fait d'inviter Vanessa pour en parler parce qu'il y a beaucoup de gens compétents qui peuvent en parler et qui peuvent dire que c'est pas forcément les jeux vidéo le problème et qu'au final, on peut être addict à tout. Hein. On peut être addict au café, on peut être addict au sexe, on peut être addict à l'alcool, à la violence, à tout ce que vous voulez.
Fromage.
Au fromage, ça existe.
On a beaucoup de questions sur le sujet. Arnaud, encore par mail, qui nous demande, existe-t-il un lien démontré par des études sociologiques
Absolument
entre
pas.
La violence
Absolument
et les pas. Jeux vidéo? Votre réponse?
Non.
Non, mais non. Bon. Mais ce que j'aimerais dire sur cette histoire-là, c'est que je pense que la plupart des grands massacres français de l'histoire ont été faits avant l'invention des jeux vidéo. Oui. Hein, donc la Saint-Barthélemy, il n'y avait pas Call of Duty, il n'y avait pas tous les jeux violents. Donc,
Thomas Hercouet.
Effectivement, c'est un peu compliqué d'avoir ce lien direct tenu entre le jeu vidéo et la violence en tant que telle. Par contre, ce à quoi on assiste, sur Internet notamment, c'est des vrais esprits de communauté. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se retrouver autour du jeu vidéo et qui vont avoir des comportements qu'on peut observer maintenant. Ça s'appelle le Gamergate, par exemple. Ça va être des comportements qui vont être profondément misogynes, profondément racistes, profondément homophobes, profondément transphobes. Et ces gens vont utiliser le jeu vidéo pour s'approprier une culture, ce qui est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que les éditeurs aujourd'hui font beaucoup plus attention qu'avant, j'ai l'impression, à ne pas aller dans le sens de ces gens-là qui sont très vocaux, qui sont très énervés, qui sont extrêmement pénibles, mais qui vont essayer de ce qu'on appelle faire du gatekeeping, c'est-à-dire préserver le jeu vidéo comme si ça leur appartenait à eux,
exactement,
alors que c'est un média extrêmement généraliste.
Allez, jusqu'à 20h, on parle des jeux vidéo, du marché du jeu vidéo et son avenir. Vous nous appelez, il est 19h33.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Avec une question ou un témoignage de Aurélien. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir.
Vous êtes dans l'Isère.
Oui, à côté de Grenoble.
À côté de Grenoble. Donc votre question ce soir?
Alors moi c'était plutôt pour apporter un témoignage, alors qu'il valait un petit peu à contre-courant de votre émission, parce que vous l'avez rappelé, vous voulez plutôt envisager le futur du jeu vidéo. Moi je vais vous parler un petit peu de passé.
Eh bien pourquoi pas?
Parce que moi je suis je fais partie des adeptes d'une activité qu'on appelle le rétro gaming, donc qui est le fait de jouer à d'anciens jeux vidéo. Donc il y a tout un aspect patrimonial, donc en conservant les vieilles consoles et en jouant à des jeux qui ont 20 ou 30 ans. Donc voilà, c'est une pratique qui se développe de plus en plus, qui se fait un peu en complément des nouveaux types de jeux, des nouveautés que sont les FPS ou les jeux de rôle qui se jouent en ligne. Donc voilà, c'est une autre façon de pratiquer le jeu vidéo comme on le pratiquait il y a quelques années. Et puis c'est aussi quelque chose qui commence à être un petit peu pris en compte par les nouveaux éditeurs qui ressortent d'anciens titres sur les nouvelles consoles et qui permettent justement comme on redécouvrirait des vieux films dans un club de cinéphiles, de pouvoir rejouer à d'anciens jeux, même s'ils sont anciens, qui sont techniquement dépassés.
Merci Aurélien de ce témoignage. Thomas Hercouet, Community Manager chez Topito. Comme pour les vide-greniers, il y a un retour de vintage, on appelle ça comme ça aujourd'hui pour les jeux vidéo?
Alors oui et non, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, effectivement, il y a cette philosophie qui est que c'est un peu dans les vieux pots que parfois on fait des soupes qui sont quand même excellentes. Là, par exemple, des éditeurs comme Square Enix vont sortir des vieux Final Fantasy. Final Fantasy, c'est une série phare dans l'histoire du jeu vidéo. Et les ressorts sur Nintendo Switch, qui est une console actuelle, ce qui est assez exceptionnel comme démarche. Il faut savoir que le jeu vidéo, ça coûte cher, mine de rien. Quand on est dans les années 90, un jeu vidéo, ça coûte 500 francs. C'est entre 70 et 80 euros le jeu vidéo.
Et la console?
Alors, sans compter la console, qui là va chiffrer avec 1 ou 2 euros de plus quand il faut, quoi. Mais là, le fait d'avoir un patrimoine de jeux vidéo qui commence à être ressorti, qui permet de répondre à toutes les frustrations qu'on a pu avoir avant, il y a effectivement un plaisir, quasiment un plaisir de cinéphile ou d'amateur de littérature, de trouver des des vieilles œuvres et d'y rejouer. Parce que c'est des œuvres qui, certes, ont vieilli, mais sont des œuvres qui ont changé l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Et c'est formidable, vraiment, de pouvoir accéder au rétro gaming comme ça, parce que c'est de l'archéologie, c'est de l'histoire, et c'est très très important.
Philippe Progier.
J'adore ce que je viens d'entendre. Tout simplement parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est une énorme... Non, mais on se connaît pas, et du coup, là, je t'apprécie beaucoup d'un coup. Non, vraiment, parce que l'histoire, c'est... Comment dire, les jeux vidéo, c'est de l'histoire. Très clairement, moi, j'ai appris beaucoup de choses dans les jeux vidéo, et quand je... C'est très drôle, parce qu'il y a une semaine, j'ai recommandé une console avec, je vais citer le nom du jeu, Metal Gear Solid 1. Je me suis plus amusé qu'avec des jeux actuels, très clairement, ouais.
Vanessa Lalo, le jeu vidéo un peu rétro, c'est un socle social ?
Alors oui, ça marche très bien en termes d'intergénérationnel, pour jouer en famille, pour lutter peut-être contre ces technologies de plus en plus grandissantes qui angoissent aussi les personnes un peu plus âgées quand ils voient leurs gamins jouer avec des jeux technologiquement très avancés, très réalistes, qui ça leur fait un peu peur, alors que pouvoir jouer à Pong, pouvoir jouer à Pac-Man, enfin tous les jeux de leur enfance aux parents, ça vient rassurer un peu, remettre un peu de lien. Les gamins peuvent dire « Ah bon, mais tu jouais à toi aussi à des jeux vidéo quand tu étais petit ?» Les parents ont tendance à oublier que quand ils étaient petits, ils jouaient aussi. Et il y a un point qui est important aussi en termes de conservation du patrimoine, c'est qu'on voit que le jeu vidéo aujourd'hui est devenu vraiment un art et il est ancré dans notre culture et ça fait vraiment partie de la culture. Il faut pas oublier que la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui est un dépôt légal obligatoire en termes de jeux vidéo depuis 92-2002, je vais pas dire de bêtises. Donc on doit déposer aujourd'hui chaque œuvre d'art vidéoludique à la Bibliothèque nationale de France et on a de plus en plus de vraies conservations du patrimoine. On fait des musées, des expos autour du rétro gaming parce que c'est vraiment dans notre histoire. Le jeu vidéo a quand même plus de 50 ans, donc il serait peut-être temps aussi qu'on mature nos discours, nous aussi.
Il se passe quelque chose de formidable aussi en ce moment, c'est que les parents d'aujourd'hui étaient des joueurs dans les années 80-90. C'est des gens qui ont grandi avec la Super Nintendo, c'est des gens qui ont grandi avec la Mega Drive, la PlayStation, la Game Boy aussi, ou le Game Boy peut-être. Mais c'est des gens qui ont été gamins et qui ont utilisé les jeux vidéo. Quand on parle de Pong et de la première Atari, le jeu vidéo n'est pas encore très populaire. Mais à l'ère de la Super Nintendo et de la Mega Drive, là, ça devient le socle de la cour de récré. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est que les parents vont partager ça. C'est la première génération qui va vivre ça. C'est fascinant.
Parole à l'auditeur de France Inter et peut-être joueur lui-même, 01 45 24 7000. Tanguy nous appelle de Malakoff, près de Paris. Bonsoir Tanguy.
Oui, bonsoir. C'est amusant, mon témoignage va compléter ce qui vient d'être dit. Avant tout, merci à France Inter pour ces émissions qui gardent une qualité folle, même pendant la grille d'été.
Ça nous fait bien plaisir.
Félicitations à Thomas Hercouet pour la nuit originale. C'est absolument génial ce que tu fais et c'est un plaisir.
Voilà, bon, le big up à Thomas ce soir.
Merci bien. Mon témoignage, il rejoint ce qui est dit parce que moi, j'ai 25 ans, donc ma génération de parents, c'est pas la génération qui a eu la chance de jouer aux jeux vidéo. Et donc, étant jeune, ils comprenaient pas. Et j'avais ma mère qui me balançait lâche ta Game Boy, lâche ta Game Boy, pourquoi tu peux pas venir manger, lâche ta Game Boy. Ce qui est drôle, c'est qu'une dizaine d'années, ou même une quinzaine d'années plus tard, c'est moi qui lui dis, écoute, lâche ton téléphone, pourquoi tu peux pas finir ta partie de Candy Crush.
Lâche ton Candy Crush, ouais.
Alors oui, c'est effectivement un phénomène, le Candy Crush. On va poser la question à nos invités. Ouais. Philippe Rodier, si le Candy Crush a aussi bien marché, c'est parce que justement, il a été permis de jouer sur, non plus sur console, mais sur téléphone, sur smartphone.
Alors, le chiffre exact, si je dis pas de bêtises, c'est 35% des applications, la totalité des applications, 35% sont des jeux mobiles, ce qui est juste exceptionnel, c'est énorme. Et effectivement, ça permet déjà de pouvoir jouer partout, ce qui est assez différent des consoles ou des ordinateurs. Tu peux jouer dans le métro, tu peux jouer avec tes collègues dans la rue. Et Pokémon Go, si je dis pas ça de bêtises, où tu devais sortir, il y avait eu un débat en disant c'est un peu bête parce que on joue à un jeu vidéo et on devient addict. Mais encore une fois, j'ai vu des personnes, ça les incitait à sortir déjà et à rejoindre entre guillemets on les faisait chercher vers des monuments ou de ce genre de choses. Et il y avait un rapport à l'histoire qui était important aussi, je trouve. Donc oui, le jeu mobile a permis de décupler le nombre de joueurs et ça s'arrêtera pas parce que en Asie c'est beaucoup plus important sur mobile.
Alors, pas mal de questions de nos auditeurs également sur l'objet jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on l'offre aujourd'hui bien plus volontiers que des livres ou des DVD pour les fêtes. Le jeu vidéo est-il un produit culturel de loisir ou bien un sport à part entière, Philippe Rodier?
Ah oui, mais ça je comprends, mais un sport à part entière, ça va être compliqué. Alors moi, j'ai un avis qui est particulier, donc comme je vais me répéter, j'ai joué pendant très longtemps, une époque où c'était très sauvage, il n'y avait pas autant d'argent, il n'y avait pas autant de médias qui s'y intéressaient, etc. Moi, je vais dire qu'on peut le rentrer dans une catégorie de sport, c'est-à-dire que je ne pense pas que... En fait, le vrai sujet, c'est quand les gens posent cette question, c'est pourquoi on appellerait ça un sport alors que la dépense énergétique est très faible. je peux l'entendre, c'est clair, très clairement. Par contre, j'aimerais poser une question, c'est le golf, la pétanque, le tir à l'arc, le tir au pistolet, où est la dépense énergétique supérieure à l'e-sport? Je ne dis pas ça pour être condescendant par rapport à ces disciplines, je le dis parce que...
Pour le golf, c'est quand même de l'énergie. Enfin,
après,
les échecs aussi.
Les échecs sont considérés comme un sport. Si vous parlez à un russe des échecs et vous lui dites que ce n'est pas un sport, je pense que vous allez avoir beaucoup de soucis avec lui.
On va essayer de définir, donc ça se passe par la concentration, c'est l'objet concentration qui définit le sport pour les jeux vidéo.
Ouais, il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect compétition, l'aspect entraînement, le fait que aujourd'hui il y a de plus en plus de besoins au niveau de l'entraînement, c'est-à-dire que les équipes professionnelles, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans toutes les disciplines sportives vous avez toujours deux couches, vous avez une couche amateur et une couche professionnelle.
Bien sûr.
Aujourd'hui la couche amateur elle se soucie pas vraiment de son rythme d'entraînement, elle a juste envie de s'amuser. Les joueurs professionnels, quand vous commencez à les payer à un salaire qui va être équivalent à... En France, il y a des joueurs qui sont payés à plus de 10 fois le SMIC, très clairement. Je pense que là, on peut leur exiger un certain sérieux par rapport à l'entraînement et des performances qui vont en rapport avec le salaire qu'on leur donne.
On va essayer de ne pas être trop technique pour les auditeurs, mais tous les jeux de vidéo ne sont pas du e-sport. Des jeux comme Sims, des jeux comme Minecraft, qui sont des jeux où l'on demande à l'utilisateur de concevoir des espaces, un monde parallèle. Ça fait plus appel à la créativité qu'au sport, non, Thomas Sercouet?
Oui, absolument, tout à fait. On va peut-être pas chercher la compétition et l'affrontement là-dedans. Après, ça n'empêche qu'il peut y avoir des matchs quand même, qu'il peut y avoir des petits défis, mais même franchement des compétitions, pourquoi pas. Ça peut tout à fait arriver. Alors, je sais pas si Pokémon, qui est un jeu où on capture des monstres à la base, qui s'adresse principalement aux enfants, je sais qu'il y a une partie compétitive très, très, très développée, mais je sais pas si ça rentre exactement dans l'e-sport encore.
Moi, à partir du moment où il y a un aspect compétition, je le fais rentrer dans l'e-sport. Après, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'un jeu e-sport ou qu'est-ce que pas un jeu e-sport. En fait, c'est la communauté qui va décider si c'est un jeu e-sport ou non. Si la communauté décide de suivre le jeu et s'y intéresse et décide qu'entre guillemets il y a un aspect compétitif, ça va être le cas. Par exemple, sur Fortnite, avant que le jeu soit aussi populaire, énormément de gens sur la scène e-sport disaient mais ça c'est pas un jeu e-sport. Et aujourd'hui, c'est le jeu qui est en train de permettre à la discipline d'exploser aux yeux du grand public.
On va poser la question également à Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne. Quelles sont les valeurs du sport que l'on retrouve dans le jeu vidéo?
Alors on retrouve l'esprit d'équipe, la concentration, la stratégie. Il faut la collaboration également. Il y a besoin d'une rigueur en termes d'entraînement sportif. La plupart des joueurs professionnels de jeux vidéo se lèvent à heure fixe, se couchent à heure fixe, mangent correctement pour ne pas perdre leur performance, pour ne pas avoir trop de différentiel par rapport à leurs différentes compétitions. Ils ont un entraînement qui est quand même extrêmement carré et rigoureux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière assez similaire à ce qu'on a dans les équipes de sport habituelles.
Et Philippe Rodier, donc journaliste e-sport au Cahier du Foot, c'est quoi le quotidien d'un joueur de haut niveau, joueur de haut niveau de vidéo?
Ça va dépendre des jeux, ça va dépendre aussi de l'équipe où vous êtes. Si on prend le top du top, je vais parler de Counter-Strike parce que c'est le jeu que je connais le mieux. Quand moi j'étais un coach d'une équipe, même si je suis pas resté très longtemps, je vais me permettre d'en parler, on commençait les entraînements à 13h, on les finissait à 20h pour les longues journées. Donc ça faisait 7 heures d'entraînement et après les joueurs avaient une partie libre où ils continuaient quand même à jouer. Mais c'est pas affolant. Je veux dire, c'est pas 15 heures d'affilée. Et puis surtout, ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette équipe, c'est que on leur a greffé un manager qui vient du sport traditionnel justement pour éviter qu'il y ait des blessures, que le rythme soit trop élevé, parce que le problème avec l'e-sport c'est qu'aujourd'hui les joueurs qui sont dans ce milieu-là n'ont pas forcément une très grosse culture sport, et quand on leur dit il faut devenir plus fort, le rapport c'est tout le temps de dire on va augmenter le temps de jeu, sauf que la qualité est pas forcément en rapport avec la quantité, c'est pas forcément la chose à faire.
01 45 24 7000, on retourne au standard donc avec une question de Marc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir à toute l'équipe et puis bravo pour vos émissions, celle-ci et puis beaucoup d'autres sur la chaîne.
C'est gentil.
Je vous appelle, je suis ancien joueur de simulation. Alors la simulation, je précise, c'est surtout celle qui concerne la simulation de conduite pour les véhicules, pour les transports.
Pas mal d'avions, on joue pas mal aux avions en simulation, non?
Voilà, oui, le nom m'échappe sur l'instant, mais il y avait, je sais pas si on peut citer les marques, mais il y a Microsoft qui avait sorti quelque chose sur Airplane,
Flight Simulator?
Flight Simulator,
oui. Flight Simulator.
Oui, je voulais savoir si ces jeux pouvaient être, cette activité pouvait être considérée comme un jeu vidéo ou si c'était à part une autre catégorie. Et ça, c'était ma question. Et puis.
Et ensuite?
Et puis puis ensuite, c'était une déception parce qu'à l'époque, j'ai acheté des jeux de simulation automobile parce que ceux-là ont la part du lion et également des jeux concernant la simulation ferroviaire qui est un peu plus marginale. Et à l'époque, bon, on pouvait se procurer soit des, ça remonte à très loin, des disquettes, et puis ensuite, c'était des CD-ROM. Et maintenant.
Ah oui, des disquettes molles, on remonte quand même à il y a 30 ans, hein, mais bon.
Non, il y avait même des DVD, mais je remarque que maintenant, on en trouve encore quelques-uns. Mais, ah là, c'est pour les Sims, c'est encore un autre domaine. Mais le problème, c'est que pour les faire fonctionner, on est obligé de se connecter sur Internet, de s'enregistrer vraiment minutieusement pour être autorisé ensuite à les valider, à être reconnu pour avoir le feu vert, les faire fonctionner. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est...
Donc ça, c'est pour la remarque. Pour la question, on va la poser à nos invités. Thomas Hercouet, Community Manager chez Topito. Est-ce que Flight Simulator, ce vieux jeu que même moi-même j'ai connu il y a une vingtaine d'années, est-ce que c'est un jeu vidéo ?
Mais évidemment que c'est un jeu vidéo. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir de la compétition pour qu'un jeu soit un jeu ? Moi, je pense pas. Je pense que vraiment, à partir du moment où il y a cette dimension ludique, à partir du moment où il y a un concept d'amusement, ça rentre dans un jeu. Et ça pose une excellente question qui va élargir un peu le propos. C'est que pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo sans le savoir. Si vous jouez à Duolingo, si vous apprenez quoi que ce soit, si vous apprenez la programmation par SoloLearn, qui sont des applications d'apprentissage aujourd'hui parmi beaucoup d'autres, eh bien, il y a une dimension de gamification qui fait que, alors c'est pas un jeu vidéo comme on peut avoir sur Nintendo par exemple, mais ça reste des petites mécaniques de jeux vidéo qui font que ça va aller chercher la partie du cerveau qui est la même que celui ou celle qui va jouer à Final Fantasy, à Mario, à Pokémon. Donc oui, c'est un jeu vidéo évidemment.
Et la gamification, je le dis pour nos auditeurs qui n'aiment pas le franglais, c'est la ludification, c'est le fait de rendre ludique cette activité. Vous aviez un commentaire également, Vanessa Lalo, sur...
Oui, alors dans les jeux vidéo, on trouve aussi tout le panel des serious games, des jeux sérieux. Ouais. La simulation peut en faire partie à partir du moment où on a une activité un peu ludique à travers un jeu vidéo. On va pouvoir nous faire aussi apprendre des choses. Et là, on va prendre du plaisir, on va sécréter de la dopamine, le circuit de la récompense, et on va apprendre potentiellement mieux. Ça va activer les mécanismes de la motivation, ça va susciter un engagement dans les apprentissages. Donc on voit aussi que ce soit pour des petits-enfants, pour des personnes âgées, pour lutter contre les dégénérescences, l'Alzheimer, pour travailler tout un tas d'aspects cognitifs dans notre cerveau.
Faire
on va
travailler
pouvoir
le cerveau.
Jouer aussi en prenant du plaisir pour la rééducation aussi d'un certain nombre de personnes qui sont en difficulté. On va pouvoir nous faire jouer sans qu'on ait l'impression de se rééduquer ou de faire des efforts difficiles. Et ça peut aussi nous apporter énormément de choses en termes de construction et nous apprendre aussi beaucoup de mécanismes différents, notamment dans des métiers qui ont un savoir-faire. La chirurgie, par exemple, les activités médicales. Aujourd'hui,
précision,
on les simule.
La concentration et on les simule avec
le jeu. On simule de plus en plus pour apprendre avec précision. Au lieu de mettre peut-être en danger un patient, on va pouvoir faire une simulation chirurgicale en jouant aussi avec la réalité virtuelle. Alors là, on va arriver de plus en plus aussi avec des jeux qui vont mêler distraction et chose sérieuse.
Il est 8h10 sur France Inter. On parle des jeux vidéo encore pendant une dizaine de minutes avec une question de Léonard qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir Léonard.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. J'avais une question sur la législation sur l'âge recommandé pour les jeux vidéo. Parce qu'en fait, c'est souvent sur les jaquettes, quand on regarde, interdit au moins de 16 ans, 18 ans. Sauf qu'il y a un gros décalage entre l'âge moyen des joueurs et l'âge recommandé. Alors, on peut regretter qu'il y ait beaucoup de jeux qui aient des univers violents, sombres. Mais je trouve que du coup, il n'y a pas beaucoup d'offres pour, si on surmet la législation, pour des enfants ou des préadolescents, quoi.
Alors, on va poser la question pour commencer à Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne. Est-ce que l'âge, pas légal, parce que c'est pas la loi qui dit ça, je ne pense pas, mais en tout cas, l'âge recommandé correspond à l'âge des joueurs, effectivement?
Alors effectivement, là, la question a été posée par rapport à la législation. Il n'y a pas de législation à ce sujet. La seule législation, c'est que les compétitions de jeux vidéo soient interdites au moins de 16 ans. Donc ça, c'est important d'un point de vue législatif. Après, on a des préconisations qui sont proposées par l'industrie, le PEGI, Pan European Game Information, qui donne une préconisation à partir de 3 ans, à partir de 7 ans, à partir de 12 ans, à partir de 16 ans, à partir de 18 ans, qui ne correspondent pas forcément aux autres préconisations qui seraient apportées, par exemple, par le CSA, par le CNC, Donc on est en grande difficulté aujourd'hui quand on est un parent, à savoir quel contenu proposer, puisque Game of Thrones par exemple, qui est quand même extrêmement violent et sexuel, est considéré comme moins de 10 par le CSA, alors que la plupart des jeux qui mettent en scène un contenu un petit peu violent sexuel vont être plus 18. Donc je crois que ce qui est important, c'est de chercher un petit peu quels sont les contenus qu'offrent les jeux, de s'intéresser vraiment à ce que font les enfants et de proposer des jeux qui vont être en adéquation avec nos propres valeurs en respectant quand même un minima, effectivement, les préconisations.
Et peut-être pour les plus jeunes joueurs, l'importance du rôle des parents, Philippe Rodier.
Je pense que c'est le sujet principal, c'est que c'est très intéressant de parler des recommandations d'âge. Moi, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent, c'est qu'il faut arrêter d'exonérer les parents sur les processus éducatifs. Ça, c'est très important parce que
il y a une démission des parents quand il y a des jeux vidéo chez les enfants.
Je vais pas dire démission parce que je pense que quand t'as deux parents à la maison qui travaillent les deux et qui ont pas forcément l'argent pour prendre une nounou, la démission elle est automatique en fait. Donc là, c'est le problème, il est très très large, il est sociétal et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment s'intéresser. Après, sur la violence et sur les âges de restriction, moi j'ai un exemple qui est frappant pour moi, c'est que les États-Unis sont très spécialistes sur les rapports à la violence, les rapports au sexe et au puritanisme, et quand on regarde comment ils sont finalement dans leur rapport entre eux dans la société, j'ai pas envie de devenir les États-Unis, donc je pense qu'il y a des jeux qui sont interdits moins de 18 ans qui n'ont pas du tout de raison de l'être, et l'exemple de Game of Thrones est le plus frappant très clairement, ou même des films au cinéma qui passent et qui sont interdits à un certain âge et qui sont juste aberrants. Quoi.
Alors, pas mal de questions également ce soir sur l'avenir des jeux vidéo. Est-ce que ça passera obligatoirement par les casques à réalité augmentée, Thomas Hercouet, Comedy Manager?
J'espère. Non, je plaisante. On peut pas imaginer aujourd'hui.
Non, mais pourquoi j'espère spontanément?
Parce que j'adore la réalité virtuelle. Ouais. C'est le jeu vidéo, c'est un écran 2D, c'est un tableau interactif. La réalité virtuelle nous plonge dans un espace-temps complètement différent. Donc c'est hyper intéressant. Mais le jeu vidéo aujourd'hui, on peut pas imaginer jusqu'où il va aller demain. Ouais. C'est tellement dépendant non seulement des terminaux sur lesquels on joue. Ça peut être la télé, ça peut être Internet. Qui imaginait il y a 20 ans qu'on jouerait à des jeux vidéo sur un téléphone? Rien que cette phrase. Mais en plus de ça, le jeu vidéo existera à partir du moment où il y aura des choses à raconter, à partir du moment où il y aura la possibilité de rendre quelque chose interactif.
Je voudrais poser la question à Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne. Est-ce que l'avenir des jeux qui passeraient par des casques avec nos yeux, qui seraient attirés et qui décideraient un peu des images qu'on a devant les yeux, ça vous inspire quoi? C'est un isolement? Ça vous inquiète? Il faudra faire attention à tout ça?
Alors, faire un minimum attention avec les personnes fragiles, parce qu'on est dans une immersion tellement grande qu'effectivement, autant on n'a jamais pu prouver de corrélation violence-jeux vidéo, autant avec la réalité virtuelle, là vraiment notre cerveau pense qu'il est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre. On a une perception qui est complètement biaisée. Donc potentiellement avec des personnes fragiles, des petits-enfants, là avant 12 ans, je déconseillerais très très fortement la réalité virtuelle, alors que pour le jeu vidéo, je ne mettrais pas forcément de principe de précaution aussi grand. Donc voilà, mais c'est vraiment cette immersion, cette recherche de nouvelles expériences sensorielles, parce qu'on a un casque sur les oreilles, on est immergé vraiment dans une autre expérience à travers son corps, donc là il va se passer énormément de choses. Par contre, est-ce que l'avenir sera à travers les casques? Peut-être, la réalité augmentée qui va projeter des informations supplémentaires, la réalité virtuelle à travers des casques qui vont nous immerger dans une expérience mais qui peut être connectée avec différentes personnes. Donc là, on n'est pas que dans le jeu solitaire avec nos casques, chacun en train de vivre quelque chose. Donc il y aura aussi des expériences partagées. Et puis potentiellement, le jeu va aussi se mettre sur nos murs et se jouer un petit peu partout. Et
bah oui, justement, une question sur cet aspect. Les experts qui disent que la prochaine décennie sera celle de l'abandon progressif des consoles classiques au profit de plateformes dématérialisées. Ça annonce quel type d'innovation, Thomas Hercouet?
C'est des choses qu'on commence déjà à voir, que les constructeurs travaillent avec des consoles dématérialisées, en fait, hein, ce qu'on appelle dans le cloud. Je ne m'avancerai pas, je ne ferai pas de prospective là-dessus. Je pense que, encore une fois, ce sera peut-être une nouvelle forme de jeu, quelque chose de très accessible en ligne, qui aura ses problématiques. On sera dépendant de fournisseurs de jeux vidéo et d'entreprises, plus qu'on l'est maintenant. Ouais. Le dématérialisé, on a évoqué ça très brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire télécharger des jeux et non plus les acheter en boîte, ce que nous disait l'amateur de simulateur tout à l'heure. C'est intéressant parce que ça permet, c'est rapide, c'est pratique, c'est parfois un peu moins cher, mais ça pose des questions. Nos jeux ne nous appartiennent plus de la même façon. Il y a des entreprises qui sont derrière qui ont une économie complètement différente de celle de la distribution. Donc, il y a tellement d'enjeux et tellement de problématiques qui se rencontrent là-dessus que c'est impossible de savoir ce que ça va donner.
Philippe Rodier, cette dématérialisation des consoles de jeux vidéo, ça n'a pas échappé à Google, qui pourrait bien se lancer sur le secteur du jeu vidéo. On a commencé à en parler, mais ça pourrait apporter quel type d'innovation?
Je reviendrai juste sur la réalité virtuelle pour tempérer, parce que je pense que pour les jeux vidéo, c'est clair et net. c'est l'avenir, ça c'est sûr et certain, mais pour l'e-sport, je ne pense pas, parce que si vous prenez la VR dans l'e-sport, en fait, ça rajoute une donnée physique. Et ce qui est bien dans les jeux vidéo, c'est qu'il n'y a pas de rapport physique, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 1m50 peut défier un mec qui fait 1m90 au basket, il n'aura pas de souci. Par contre, si vous passez en réalité virtuelle, forcément, la donnée physique va rentrer en compte. Donc pour l'e-sport, je ne pense pas. Je pense que pour la partie entraînement, par contre, vu que tu peux avoir une immersion dans les maps, donc les cartes dans lesquelles on joue, il y aura un avenir, c'est clair. Après, se projeter, comme le dit très bien Thomas, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça va dépendre des technologies et surtout des éditeurs qui ont beaucoup d'argent.
Allez, une dernière question standard avec celle de Christine. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Besançon, enfin en tout cas du Doubs, je crois.
Oui, c'est ça.
Quelle est votre question ou votre remarque?
C'est une remarque. J'écoute votre émission, pas tout à fait depuis le début, mais quasiment, et je n'ai entendu aucun appel de femme. Et vous ne serez pas surpris d'entendre que j'ai entendu cette émission en faisant la cuisine. Il n'y avait personne chez moi qui joue à un jeu vidéo, mais ça aurait pu. Mais ça aurait certainement pas été ma fille, peut-être parce qu'elle n'en a pas le goût, quoiqu'elle aurait pu le faire, peut-être si elle en avait le temps. Et je fais juste cette remarque pour dire que les jeux vidéo, ce sont les jeux de gens qui peuvent prendre le temps de jouer à ça. Alors vous allez me dire qu'on peut jouer à des tas d'autres choses, mais d'une manière générale, je pense qu'on pourrait enquêter sur le temps de jeu dont disposent les filles et les femmes. Et particulièrement les femmes qui sont occupées.
Écoutez, c'est une
bonne remarque, je vous laisse
réfléchir. Eh bien, elle est pertinente, cette remarque. On va la soumettre à nos invités. Philippe Rodier, on l'a abordé en début d'émission. Il y a aujourd'hui pratiquement autant d'hommes que de femmes qui jouent, ou plus d'hommes encore. On n'a pas les statistiques très précises, mais il faudrait que je me plonge dans celles de l'IFOP de l'année dernière.
Je me prononcerai pas sur ce sujet. Par contre, je pense que pour trouver du temps, les femmes et les hommes auront la même problématique pour trouver du temps. Ça, c'est pas vraiment un débat. Par contre, le problème, c'est ce que Thomas a évoqué, Vanessa aussi a évoqué, c'est que quand tu es une femme et que tu restes sur un jeu, tu peux vite tomber sur des hommes qui sont très condescendants et qui vont vite te ramener à ton sexe, en fait.
Oh, sexiste, hein, carrément, je pense.
Oui, sexiste, je voulais pas.
Misogyne, oui.
Oui, misogyne et sexiste.
Dans la fenêtre de chat sur Internet, on s'échange des propos misogynes.
Mais après, moi, ce que je vais me prononcer sur ça, c'est que mon ex a été championne du monde, donc je connais très bien le sujet, je suis resté un petit moment avec elle et je vois ce que ça a apporté sur elle en termes de compétences, en termes de confiance en elle, ce que ça lui a permis de s'émanciper et de montrer qu'elle était capable de faire des choses au même niveau que les hommes, et je pense qu'elle en avait besoin à cette époque, et c'est ça qui lui a permis vraiment de devenir qui elle est aujourd'hui. Donc je pense que s'il n'y a pas autant de femmes dans les jeux vidéo que les hommes aujourd'hui, ça serait bien qu'on fasse entre guillemets le maximum pour montrer que les jeux peuvent être positifs pour les femmes, et ça peut montrer justement aux hommes que on peut se faire éclater pendant une partie par une femme, il n'y a pas de souci, quoi.
Vanessa Lalo, quel est le point de vue, la remarque de la psychologue clinicienne que vous êtes?
Effectivement, les filles sont un petit peu moins éduquées vers les jeux vidéo, bien que les filles ont tendance à jouer aux Sims parce que c'est la maison de poupées, puis les petits garçons vont plus jouer à Minecraft parce que c'est les Lego. On retrouve aussi ce type d'activité dans la vie virtuelle, entre guillemets, par rapport à notre vie réelle. Après, l'auditrice parle certainement de la charge mentale. On a effectivement, en tant que femme, toujours beaucoup d'heures qui ne sont pas forcément valorisées ou valorisables. Après, quand on parle de Candy Crush, tout à l'heure, qui était quand même un des jeux qui a généré le plus d'argent en termes de jeux mobiles, on y joue quand, je sais pas, on attend à la caisse, quand on prend le métro, enfin il y a plein
parce
de situations.
Parce que c'est sur le smartphone, et que c'est plus
facile. Parce qu'on peut faire des petites parties rapides, là où les garçons peuvent potentiellement jouer à des jeux de manière plus longue. Maintenant, c'est pas forcément une réponse à discriminer, enfin c'est pas, faudrait pas discriminer non plus le genre par rapport aux jeux vidéo.
Par rapport aux jeux vidéo. Merci d'être venu le dire ce soir sur France Inter. Vanessa Lalo, Philippe Rodier, Thomas Hercouet. Merci à l'équipe du Téléphone Sonne. Il y avait Hélène Biziot à la réalisation, Patrick Henry et Grégory Wallon. Merci Pierre de Certaines, Emma Ferré, Mathilde Sourd. Dans quelques secondes, il sera 20h.